Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les dépêches d'Africa Presse du 1er mai 2025. Pas mal de choses à couvrir.
Bonjour.
Oui, un programme chargé, hein, politique, économie, sécurité, un vrai tour d'horizon du continent.
Exactement.
Du Mali au Kenya, en passant par la RDC, le Ghana, et même les relations avec les États-Unis, le Canada. On essaye de décrypter tout ça.
C'est ça. Ça montre bien comment tout est lié, finalement, les dynamiques internes, les enjeux internationaux.
Commençons peut-être par le Mali. Alors, cette proposition de maintenir le général Guïta président pour 5 ans, sans élection, ça fait jaser, non?
Ah oui, clairement. C'est une rupture assez nette avec les promesses initiales de transition rapide. Et ça s'inscrit un peu dans une tendance régionale, si on pense au Niger, au Burkina Faso.
C'est-à-dire une sorte de consolidation du pouvoir militaire face aux crises?
Exactement. Crise sécuritaire, économique. Le pouvoir militaire se présente comme la seule solution stable. Et les réformes à côté, sur l'opposition, la caution présidentielle, tout ça va dans le même sens. Redessiner le paysage politique pour durer.
C'est moins une transition qu'une installation, en quelque sorte.
On peut le voir comme ça, oui.
Et à côté de ça, situation complètement différente au Gabon. L'Union africaine qui lève les sanctions, qui réintègre le pays.
Oui, après le coup d'août 2023, l'UA parle de transition globalement réussie sous le général Nguema.
Globalement réussie, avec une élection à 94%. Bon, c'est quand même un signal assez souple de la part de l'UA par rapport à d'autres situations similaires.
Tout à fait, c'est assez surprenant. Peut-être une approche plus pragmatique, une reconnaissance des spécificités locales. Difficile à dire. En tout cas, ça ouvre la porte à la coopération.
Mais ça interroge sur la ligne de l'UA face au régime militaire quand même.
Absolument. La cohérence n'est pas toujours évidente.
Restons en politique, mais plus tendue. En RD Congo, on parle de lever l'immunité de l'ex-président Kabila. Oui, une demande déposée au Sénat par la justice militaire. Les accusations sont très lourdes. Trahison, crime de guerre, lien présumé avec le M23. Et le point clé, c'est que ça concerne des faits après son mandat présidentiel. C'est bien ça?
C'est ça. Alors qu'il est sénateur à vie. Son parti, le PPRD, crie évidemment au complot politique.
Dans un contexte déjà hyper tendu à l'Est.
Voilà. Ça mélange justice, politique et la crise sécuritaire qui n'en finit pas. C'est explosif comme dossier.
Et l'instabilité qui touche aussi le Kenya. L'assassinat d'un député, Charles Ongondo Were.
Oui, à Nairobi, la police parle d'une attaque ciblée, préméditée.
Le mobile reste flou, mais...
Mais on évoque des violences politiques locales, dans son comté d'origine, Homabé.
Exactement. Ça rappelle que même en dehors des grandes élections, des tensions locales peuvent dégénérer et fragiliser la stabilité. Le président Ruto a demandé une enquête rapide, d'ailleurs.
Il sent en danger, quoi.
Probablement. Passons à l'économie. Le Ghana avec ce projet de méga-usine sucrière de Dangote.
Ah oui, un investissement colossal. 12 000 tonnes de canne par jour, 25 000 hectares irrigués. Le but, c'est l'autosuffisance en sucre, réduire les importations qui coûtent cher.
Ça s'inscrit dans leur politique One District, One Factory, c'est ça?
Tout à fait. C'est un pari sur l'agro-industrie à très grande échelle. Ça va créer des emplois, c'est sûr, mais ça renforce aussi la position dominante de Dangote en Afrique de l'Ouest.
Même s'il y a d'autres acteurs locaux, Comenda, Bouygues Sugar.
Oui, il y a une concurrence qui émerge, mais là, Dangote frappe fort.
Maintenant, les relations internationales. D'abord, les États-Unis et le Rwanda qui lancent un dialogue stratégique. C'est étonnant, non, vu les sanctions américaines récentes liées au M23.
Oui, c'est un peu le grand écart diplomatique. D'un côté, les sanctions, de l'autre, ce dialogue renforcé sur plein de sujets. Politique, économie, santé, sécurité. Et surtout, les minerais stratégiques des Grands Lacs, j'imagine.
Exactement. C'est explicitement mentionné. Surtout après l'accord RDC-Rwanda que Washington a un peu poussé. Les États-Unis essaient de jongler entre leurs intérêts et la pression pour stabiliser la région. C'est pas simple.
Toujours les USA, mais avec l'Afrique du Sud, cette fois. Le programme d'asile pour les fermiers blancs sud-africains, les Afrikaners. Ça avance apparemment?
Oui, quelques dizaines d'approbations sous ce programme lancé par Trump. Il est basé sur des allégations de violence, de discrimination raciale ciblée.
Des allégations qui sont contestées d'ailleurs.
Très contestées, oui. Par le gouvernement sud-africain, par beaucoup d'experts qui disent que la criminalité touche tout le monde. Et puis, l'intérêt semble assez limité chez les Afrikaners eux-mêmes. Beaucoup préfèrent rester.
Donc, plus un geste politique qu'une réponse à un vrai flux migratoire.
Ça y ressemble beaucoup, oui. Et les critères exacts pour être éligible restent assez flous.
Dernier point, plus social, ces problèmes de recrutement d'étudiants africains pour les cégeps au Québec. Des agences qui font miroiter des gratuités qui n'existent pas. Oui, un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis la pandémie. Des étudiants se retrouvent coincés avec des frais énormes à payer, genre 7 000, 12 000 par session.
Et les cégeps essaient de réagir?
Ils mettent en place du soutien, oui. Certains demandent des dépôts pour vérifier la solvabilité, comme à Jean-Pierre. Mais ça montre qu'il y a peut-être un problème plus large dans la vérification de la capacité financière quand le Canada donne les permis d'études.
C'est clair. Il y a un vide quelque part.
Bon, pour résumer rapidement, on voit une Afrique vraiment en mouvement. Des projets économiques ambitieux, mais aussi des transitions politiques compliquées, de l'insécurité qui persiste, et puis ces dynamiques internationales complexes. C'est ça. Entre la course aux ressources, le sucre ici, les minerais là, l'instabilité politique ou sécuritaire à certains endroits, et puis les migrations, que ce soit vers les USA, le Canada, ou même à l'intérieur du continent.
Comment tout ça interagit en fait ?
Exactement. C'est peut-être la grande question pour comprendre l'avenir du continent, et aussi ses relations avec le reste du monde. Comment ces forces, ressources, politiques, migrations se combinent et façonnent la suite ? C'est sans doute une clé de lecture essentielle.
Une réflexion intéressante pour terminer. Merci pour cet éclairage.
Merci à vous.